Semblable au premier consul qui, vaincu dans les champs de Marengo jusqu'à 5 heures du soir, à 6 heures obtint la victoire par l'attaque désespérée de deux sexes et par la terrible charge de Kellerman, Chesnel aperçut les éléments du triomphe au milieu des ruines. Il fallait être Chesnel, il fallait être vieux notaire, vieil intendant, avoir été petit clerc de maître Sorbier père, il fallait les illuminations soudaines du désespoir pour être aussi grand que Napoléon, plus grand même. Cette bataille n'était pas Marengo mais Waterloo, et Chesnel voulait vaincre les Prussiens en les voyant arriver. « Madame, vous de qui j'ai fait les affaires pendant 20 ans, vous l'honneur de la bourgeoisie, comme les d'Esgrignon sont l'honneur de la noblesse de cette province. Sachez qu'il dépend maintenant de vous seul de sauver la maison d'Esgrignon. Maintenant répondez. Laisserez-vous déshonorer les mânes de votre oncle, les d'Esgrignon, le pauvre Chesnel? Voulez-vous tuer mademoiselle Armande qui pleure? Voulez-vous racheter vos torts en réjouissant vos ancêtres, les intendants des ducs d'Alençon, en consolant les mânes de notre cher abbé qui, s'il pouvait sortir de son cercueil, vous commanderait de faire ce que je vous demande à genoux? « Quoi ? » s'écria madame du Croisier. « Eh bien, voici les 100 000 écus, dit-il, en tirant de sa poche les paquets de billets de banque. Acceptez-les, tout sera fini. »« S'il ne s'agit que de cela, reprit-elle, et s'il n'en peut rien résulter de mauvais pour mon mari, rien que de bon, dit Chesnel, vous lui évitez les vengeances éternelles de l'enfer au prix d'un léger désappointement ici-bas. Il ne sera pas compromis ? » demanda-t-elle en regardant Chesnel. Chesnel lut alors dans le fond de l'âme de cette pauvre femme. Madame du Croisier hésitait entre deux religions, entre les commandements que l'Église a tracés aux épouses et ses devoirs envers le trône et l'autel. Elle trouvait son mari blâmable et n'osait le blâmer. Elle aurait voulu pouvoir sauver les d'Esgrignon et ne voulait rien faire contre les intérêts de son mari. « En rien, dit Chesnel, votre vieux notaire vous le jure sur les saints évangiles. » Chesnel n'avait plus que son salut éternel à offrir à la maison d'Esgrignon. Il le risqua, en commettant un horrible mensonge. Mais il fallait abuser madame du Croisier, ou périr. Aussitôt il rédigea lui-même, et dicta à madame du Croisier un reçu de 100 000 écus, daté de 5 jours avant la fatale lettre de change, à une époque où il se rappela une absence faite par du Croisier, qui était allé dans les biens de sa femme y ordonner des améliorations. « Vous me jurez, dit Chesnel, quand madame du Croisier eut les 100 000 écus, et quand il tint cette pièce, de déclarer devant le juge d'instruction que vous avez reçu cette somme au jour dit. Ne sera-ce pas un mensonge ? Officieux, dit Chesnel. Je ne saurais le faire sans l'avis de mon directeur, monsieur l'abbé Couturier. Eh bien, dit Chesnel, ne vous conduisez dans cette affaire que par ses conseils. Je vous le promets, ne remettez la somme à monsieur du Croisier qu'après avoir comparu devant le juge d'instruction. Oui, dit-elle. Hélas, que Dieu me prête la force de comparaître devant la justice humaine pour y soutenir un mensonge. » Après avoir baisé la main de madame du Croisier, Chesnel se dressa majestueusement comme un des prophètes peints par Raphaël au Vatican. « L'âme de votre oncle tressaille de joie. Vous avez à jamais effacé le tort d'avoir épousé l'ennemi du trône et de l'autel. » Ces paroles frappèrent vivement l'âme timorée de madame du Croisier. Chesnel pensa soudain à s'assurer de l'abbé Couturier, le directeur de la conscience de madame du Croisier. Il savait quelle opiniâtreté mettent les gens dévots dans le triomphe de leurs idées une fois qu'ils se sont avancés pour leur parti. Il voulut engager le plus promptement possible l'Église dans cette lutte en la mettant de son côté. Il alla donc à l'hôtel d'Esgrignon, réveilla mademoiselle Armande, lui apprit les événements de la nuit et la lança sur la route de l'évêché pour amener le prélat lui-même sur le champ de bataille. « Mon Dieu, tu dois sauver la maison d'Esgrignon !» s'écria Chesnel en revenant chez lui à pas lents. « L'affaire devient maintenant une lutte judiciaire. Nous sommes en présence d'hommes qui ont des passions et des intérêts. Nous pouvons tout obtenir d'eux. Ce du Croisier a profité de l'absence du procureur du roi qui nous est dévoué, mais qui, depuis l'ouverture des chambres, est à Paris. Qu'ont-ils donc fait pour empaumer le premier substitut qui a donné suite à la plainte sans avoir consulté son chef ? Demain matin, il faudra pénétrer ce mystère. » Étudier le terrain, et peut-être, après avoir saisi les fils de cette trame, retournerai-je à Paris afin de mettre en jeu les hautes puissances par la main de madame de Maufrigneuse. » Tels étaient les raisonnements du pauvre vieil athlète qui voyait juste et qui se coucha quasi mort sous le poids de tant d'émotions et de tant de fatigues. Néanmoins, avant de s'endormir, il jeta sur les magistrats qui composaient le tribunal un coup d'œil scrutateur qui embrassaient les pensées secrètes de leurs ambitions, afin de voir quelles étaient ses chances dans cette lutte et comment il pouvait être influencé. En donnant une forme succincte au long examen des consciences que fit Chesnel, il fournira peut-être un tableau de la magistrature en province. Les juges et les gens du roi, forcés de commencer leur carrière en province, où s'agitent les ambitions judiciaires, voient tous Paris à leur début. Tous aspirent à briller sur ce vaste théâtre où s'élèvent les grandes causes politiques, où la magistrature est liée aux intérêts palpitants de la société. Mais ce paradis des gens de justice admet peu d'élus, et les 9/10 des magistrats doivent, tôt ou tard, se caser pour toujours en province. Ainsi tout tribunal, toute cour royale de province offre deux partis bien tranchés, celui des ambitions lassées d'espérer, contentes de l'excessive considération accordée en province au rôle qui jouent les magistrats, ou endormis par une vie tranquille, puis celui des jeunes gens et des vrais talents, auxquels l'envie de parvenir que nulle déception n'a tempéré, ou que la soif de parvenir aiguillonne sans cesse, donne une sorte de fanatisme pour leur sacerdoce. À cette époque, le royalisme animait les jeunes magistrats contre les ennemis des Bourbons. Le moindre substitut rêvait réquisitoire, appelait de tous ses vœux un de ces procès politiques qui menaient le zèle en relief, attirait l'attention du ministère et faisait avancer les gens du roi. Qui parmi les parquets ne jalousait la cour dans le ressort de laquelle éclatait une conspiration bonapartiste? Qui parmi les parquets ne jalousait la cour dans le ressort de laquelle éclatait une conspiration bonapartiste? Qui ne souhaitait trouver un Caron, un Berton, une levée de boucliers? Ces ardentes ambitions stimulées par la grande lutte des partis, appuyées sur la raison d'État et sur la nécessité de monarchiser la France, étaient lucides, prévoyantes, perspicaces. Elles faisaient avec rigueur la police, espionnaient les populations et les poussaient dans la voie de l'obéissance, d'où elles ne doivent pas sortir. La justice, alors fanatisée par la foi monarchique, réparait les torts des anciens parlements et marchait d'accord avec la religion, trop ostensiblement peut-être. Elle fut alors plus zélée qu'habile, elle pécha moins par machiavélisme que par la sincérité de ses vues, qui parurent hostiles aux intérêts généraux du pays qu'elle essayait de mettre à l'abri des révolutions. Mais, prise dans son ensemble, la justice contenait encore trop d'éléments bourgeois. Elle était encore trop accessible aux passions mesquines du libéralisme. Elle devait devenir tôt ou tard constitutionnelle et se ranger du côté de la bourgeoisie au jour d'une lutte. Dans ce grand corps, comme dans l'administration, il y eut de l'hypocrisie, ou, pour mieux dire, un esprit d'imitation qui porte la France à toujours se modeler sur la cour et à la tromper ainsi, très innocemment. Ces deux sortes de physionomies judiciaires existaient au tribunal où s'allait décider le sort du jeune d'Esgrignon. Monsieur le président du Ronceret, un vieux juge nommé Blondet, y représentait ses magistrats, résignés à n'être que ceux qu'ils sont et casés pour toujours dans leur ville. Le parti jeune et ambitieux comptait Monsieur Camusot, le juge d'instruction, et Monsieur Michu, nommé juge suppléant par la protection de la maison de Cinq-Cygnes et qui devait à la première occasion entrer dans le ressort de la cour royale de Paris. Mis à l'abri de toute destitution par l'inamovibilité judiciaire et ne se voyant pas accueilli par l'aristocratie suivant l'importance qu'il se donnait, le président du Ronceret avait pris parti pour la bourgeoisie en donnant à son désappointement le vernis de l'indépendance, sans savoir que ses opinions le condamnaient à rester président toute sa vie. Une fois engagé dans cette voie, il fut conduit par la logique des choses à mettre son espérance d'avancement dans le triomphe du Ducroisier et du côté gauche. Il ne plaisait pas plus à la préfecture qu'à la cour royale. Forcé de garder des ménagements avec le pouvoir, il était suspect aux libéraux. Il n'avait ainsi de place dans aucun parti. Obligé de laisser la candidature électorale à Ducroisier, il se voyait sans influence et jouait un rôle secondaire. La fausseté de sa position réagissait sur son caractère. Il était aigre et mécontent. Fatigué de son ambiguïté politique, il avait résolu secrètement de se mettre à la tête du parti libéral et de dominer ainsi Ducroisier. Sa conduite dans l'affaire du comte d'Esgrignon fut son premier pas dans cette carrière. Il représentait admirablement déjà cette bourgeoisie qui offusque de ses petites passions les grands intérêts du pays, quinteuse en politique, aujourd'hui pour et demain contre le pouvoir, qui compromettent tout et ne sauvent rien, désespérée du mal qu'elle a fait et continuant à l'engendrer, ne voulant pas reconnaître sa petitesse et tracassant le pouvoir en s'en disant la servante, à la fois humble et arrogante, demandant au peuple une subordination qu'elle n'accorde pas à la royauté, inquiète des supériorités qu'elle désire mettre à son niveau, comme si la grandeur pouvait être petite, comme si le pouvoir pouvait exister sans force. Ce président était un grand homme sec et mince, à front fuyant, à cheveux grêles et châtains, aux yeux vairons, à teint coupe rosée, aux lèvres serrées. Sa voix éteinte faisait entendre le sifflement gras de l'asthme. Il avait pour femme une grande créature solennelle et dégingandée, qui s'affublait des modes les plus ridicules et se parait excessivement. La présidente se donnait des airs de reine, elle portait des couleurs vives et n'allait jamais au bal sans orner sa tête de ces turbans si chers aux Anglaises et que la province cultive avec amour. Riches tous deux de 4 ou 5 000 livres de rente, ils réunissaient avec le traitement de la présidence 12 000 francs. Malgré leur pente à l'avarice, ils recevaient un jour par semaine afin de satisfaire leur vanité. Fidèles aux vieilles mœurs de la ville où Ducroisier introduisait le luxe moderne, monsieur et madame du Ronceret n'avaient fait aucun changement depuis leur mariage à l'antique maison où ils demeuraient et qui appartenait à madame. Cette maison, qui avait une façade sur la cour et l'autre sur un petit jardin, présentait sur la rue un vieux pignon triangulaire et grisâtre, percé d'une croisée à chaque étage. La cour et le jardin étaient encaissés par une haute muraille, le long de laquelle s'étendait dans le jardin une allée de marronniers et les communs dans la cour. Du côté de la rue qui longeait le jardin, s'étendait une vieille grille en fer dévorée de rouille, et sur la cour, entre deux panneaux de mur, était une grande porte cochère terminée par une immense coquille. Cette coquille se retrouvait au-dessus de la porte de la façade. Là, tout était sombre, étouffé, sans air. La muraille mitoyenne offrait des jours grillés comme des fenêtres de prison. Les fleurs avaient l'air de se déplaire dans les petits carrés de ce jardinet où les passants pouvaient voir par la grille ce qui s'y faisait. Au rez-de-chaussée, après une grande antichambre éclairée sur le jardin, on entrait dans le salon dont une des fenêtres donnait sur la rue et qui avait un perron à porte vitrée sur le jardin. La salle à manger, d'une grandeur égale à celle du salon, était de l'autre côté de l'antichambre. Ces trois pièces s'harmoniaient à cet ensemble mélancolique. Les plafonds, tous coupés par ces lourdes solives peintes, ornées au milieu de quelques maigres losanges à rosaces sculptées, brisaient le regard. Les peintures, de ton criard, étaient vieilles et enfumées. Le salon, décoré de grands rideaux en soie rouge mangés par le soleil, était garni d'un meuble de bois peint en blanc et couvert en vieilles tapisseries de Beauvais à couleurs effacées. Sur la cheminée, une pendule du temps de Louis XV se voyait entre des girandoles extravagantes dont les bougies jaunes ne s'allumaient qu'au jour où la présidente dépouillait de son enveloppe verte un vieux lustre à pendeloques de cristal de roche. Trois tables de jeu à tapis vert râpé, un tric-trac, suffisaient aux joies de la compagnie à laquelle Madame du Ronceret accordait du cidre, des échaudés, des marrons, des verres d'eau sucrée et de l'orgeat fait chez elle. Depuis quelque temps, elle avait adopté tous les 15 jours un thé enjolivé de pâtisseries assez piteuses. Par chaque trimestre, les du Ronceret donnaient un grand dîner à 3 services, tambouriné dans la ville, servi dans une détestable vaisselle, mais confectionné avec la science qui distingue les cuisinières de province. Ce repas gargantuesque durait 6 heures. Le président essayait alors de lutter par une abondance d'avare avec l'élégance de Ducroisier. Ainsi la vie et ses accessoires concordaient chez le président à son caractère et à sa fausse position. Il se déplaisait chez lui, sans savoir pourquoi, mais il n'osait y faire aucune dépense pour y changer l'état des choses, trop heureux de mettre tous les ans 7 ou 8 000 francs de côté pour pouvoir établir richement son fils Félicien, qui n'avait voulu devenir ni magistrat, ni avocat, ni administrateur, et dont la fainéantise le désespérait. Le président était sur ce point en rivalité avec son vice-président, Monsieur Blondet, vieux juge qui depuis longtemps avait lié son fils avec la famille Blanduro. Ces riches marchands de toile avaient une fille unique à laquelle le président souhaitait de marier Félicien. Comme le mariage de Joseph Blondet dépendait de sa nomination aux fonctions de juge suppléant que le vieux Blondet espérait obtenir en donnant sa démission, le président du Ronceret contrariait sourdement les démarches du juge et faisait travailler les Blanduro secrètement. Aussi, Sans l'affaire du jeune comte d'Esgrignon, peut-être les Blondets auraient-ils été supplantés par l'astucieux président, dont la fortune était bien supérieure à celle de son compétiteur. La victime des manœuvres de ce président machiavélique, Monsieur Blondet, une de ces curieuses figures enfouies en province comme de vieilles médailles dans une crypte, avait alors environ 67 ans. Il portait bien son âge, il était de haute taille, et son encolure rappelait les chanoines du bon temps. Son visage, percé par les 1000 trous de la petite vérole qui lui avait déformé le nez en le lui tournant en vrille, ne manquait pas de physionomie. Il était coloré très également d'une teinte rouge, et, animé par deux petits yeux vifs, habituellement sardoniques, et par un certain mouvement satirique de ses lèvres violacées. Avocat avant la Révolution, il avait été fait accusateur public, mais il fut le plus doux de ses terribles fonctionnaires. Le bonhomme Blondet, on l'appelait ainsi, avait amorti l'action révolutionnaire en acquiesçant à tout et n'exécutant rien. Forcé d'emprisonner quelques nobles, il avait mis tant de lenteur à leur procès qu'il leur fit atteindre aux 9 thermidor avec une adresse qui lui avait concilié l'estime générale. Certes, le bonhomme Blondet aurait dû être le président du tribunal, mais lors de la réorganisation des tribunaux, il fut écarté par Napoléon, dont l'éloignement pour les républicains reparaissait dans les moindres détails du gouvernement. La qualification d'ancien accusateur public, inscrite en marge du nom de Blondet, fit demander par l'empereur à Cambacérès s'il n'y avait pas dans le pays quelque rejeton d'une vieille famille parlementaire à mettre à sa place. Du Ronceret, dont le père avait été conseiller au Parlement, fut donc nommé. Malgré la répugnance de l'empereur, l'archichancelier, dans l'intérêt de la justice, maintint Blondet juge, en disant que le vieil avocat était un des plus forts jurisconsultes de France. Le talent du juge, ses connaissances dans l'ancien droit et plus tard dans la nouvelle législation, eussent dû le mener fort loin. Mais, semblable en ceci à quelques grands esprits, il méprisait prodigieusement ses connaissances judiciaires et s'occupait presque exclusivement d'une science étrangère à sa profession et pour laquelle il réservait ses prétentions, son temps et ses capacités. Le bonhomme aimait passionnément l'horticulture, il était en correspondance avec les plus célèbres amateurs, il avait l'ambition de créer de nouvelles espèces, il s'intéressait aux découvertes de la botanique, il vivait enfin dans le monde des fleurs. Comme tous les fleuristes, il avait sa prédilection pour une plante choisie entre toutes, et sa favorite était le pélargonium. Le tribunal et ses procès, sa vie réelle, n'étaient donc rien auprès de la vie fantastique et pleine d'émotions que menait le vieillard, de plus en plus épris de ses innocentes sultanes. Les soins à donner à son jardin, les douces habitudes de l'horticulteur clouèrent le bonhomme Blondet dans sa serre. Sans cette passion, il eût été nommé député sous l'Empire, il eût sans doute brillé dans le corps législatif. Son mariage fut une autre raison de sa vie obscure. À l'âge de 40 ans, il fit la folie d'épouser une jeune fille de 18 ans, de laquelle il eut dans la première année de son mariage un fils nommé Joseph. 3 ans après, Madame Blondet, alors la plus jolie femme de la ville, inspira au préfet du département une passion qui ne se termina que par sa mort. Elle eut du préfet, au-dessus de toute la ville et du vieux Blondet lui-même, un second fils nommé Émile. Madame Blondet, qui aurait pu stimuler l'ambition de son mari, qui aurait pu l'emporter sur les fleurs, favorisa le goût du juge pour la botanique et ne voulut pas plus quitter la ville que le préfet ne voulut changer de préfecture tant que vécut sa maîtresse. Incapable de soutenir à son âge une lutte avec une jeune femme, le magistrat se consola dans sa serre et prit une très jolie servante pour soigner son sérail de beauté incessamment diversifié. Pendant que le juge dépotait, repiquait, arrosait, marcottait, greffait, mariait et panachait ses fleurs, Madame Blondet dépensait son bien en toilette et en mode pour briller dans les salons de la préfecture. Un seul intérêt, l'éducation d'Émile, qui certes appartenait encore à sa passion, pouvait l'arracher aux soins de cette belle affection que la ville finit par admirer. Cet enfant de l'amour était aussi joli, aussi spirituel que Joseph était lourd et laid. Le vieux juge, aveuglé par l'amour paternel, aimait autant Joseph que sa femme chérissait Émile. Pendant 12 ans, M. Blondet fut d'une résignation parfaite. Il ferma les yeux sur les amours de sa femme en conservant une attitude noble et digne, à la façon des grands seigneurs du XVIIIe siècle. Mais, comme tous les gens de goût tranquille, il nourrissait une haine profonde contre son fils cadet. En 1818, à la mort de sa femme, il expulsa l'intrus, en l'envoyant faire son droit à Paris, sans autre secours qu'une pension de 1200 francs, à laquelle aucun cri de détresse ne lui fit ajouter une obole. Sans la protection de son véritable père, Émile Blondet eût été perdu. La maison du juge est une des plus jolies de la ville. Située presque en face de la préfecture, elle a sur la rue principale une petite cour proprette, séparée de la chaussée par une vieille grille de fer contenue entre deux pilastres en briques. Entre chacun de ces pilastres et la maison voisine se trouvent deux autres grilles assises sur de petits murs également en briques et à hauteur d'appui. Cette cour, large de 10 et longue de 20 toises, est divisée en deux massifs de fleurs par le pavé de briques qui mène de la grille à la porte de la maison. Ces deux massifs, renouvelés avec soin, offrent à l'admiration publique leur triomphant bouquet, en toute saison. Du bas de ces deux monceaux de fleurs s'élance sur le pan des murs des deux maisons voisines un magnifique manteau de plantes grimpantes. Les pilastres sont enveloppés de chèvrefeuilles et ornés de deux vases en terre cuite où des cactus acclimatés présentent aux regards étonnés des ignorants leurs monstrueuses feuilles hérissées de leurs piquantes défenses qui semblent dues à une maladie botanique. La maison bâtie en briques, dont les fenêtres sont décorées d'une marge cintrée également en briques, montre sa façade simple, égayée par des persiennes d'un vert vif. Sa porte vitrée permet de voir, par un long corridor au bout duquel est une autre porte vitrée, l'allée principale d'un jardin d'environ 2 arpents. Les massifs de cet enclos s'aperçoivent souvent par les croisées du salon et de la salle à manger, qui correspondent entre elles comme celles du corridor. Du côté de la rue, la brique a pris depuis 2 siècles une teinte de rouille et de mousse entremêlée de tons verdâtres, en harmonie avec la fraîcheur des massifs et de leurs arbustes. Il est impossible aux voyageurs qui traversent la ville de ne pas aimer cette maison si gracieusement encaissée, fleurie, moussue jusque sur ses toits que décorent 2 pigeons en poterie. Outre cette vieille maison, à laquelle rien n'avait été changé depuis 1 siècle, le juge possédait environ 4 000 livres de rente en terre. Sa vengeance, assez légitime, consistait à faire passer cette maison, les terres et son siège à son fils Joseph, et la ville entière connaissait ses intentions. Il avait fait un testament en faveur de ce fils, par lequel il l'avantageait de tout ce que le code permet à un père de donner à l'un de ses enfants, au détriment de l'autre. De plus, le bonhomme thésaurisait depuis 15 ans pour laisser à ce niais la somme nécessaire pour rembourser à son frère Émile la portion qu'on ne pouvait lui ôter. Chassé de la maison paternelle, Émile Blondet avait su conquérir une position distinguée à Paris, mais plus morale que positive. Sa paresse, son laisser-aller, son insouciance avaient désespéré son véritable père qui, destitué dans une des réactions ministérielles si fréquentes sous la Restauration, était mort presque ruiné, doutant de l'avenir d'un enfant doué par la nature des plus brillantes qualités. Émile Blondet était soutenu par l'amitié d'une demoiselle de Tréville, mariée au comte de Montcornet, et qu'il avait connue avant son mariage. Sa mère vivait encore au moment où les Tréville revinrent d'émigration. Madame Blondet tenait à cette famille par des liens éloignés, mais suffisants pour y introduire Émile. La pauvre femme pressentait l'avenir de son fils. Elle le voyait orphelin, pensée qui lui rendait la mort doublement amère. Aussi lui cherchait-elle des protecteurs. Elle sut lier Émile avec l'aînée des demoiselles de Tréville, à laquelle il plut infiniment, mais qui ne pouvait l'épouser. Cette liaison fut semblable à celle de Paul et Virginie. Madame Blondet essaya de donner de la durée à cette mutuelle affection, qui devait passer comme passent ordinairement ces enfantillages, qui sont comme les dînettes de l'amour, en montrant à son fils un appui dans la famille Tréville. Quand, déjà mourante, Madame Blondet apprit le mariage de mademoiselle de Tréville avec le général Montcornet, elle vint la prier solennellement de ne jamais abandonner Émile et de le patronner dans le monde parisien où la fortune du général l'appelait à briller. Heureusement pour lui, Émile se protégea lui-même. À 20 ans, il débuta comme un maître dans le monde littéraire. Son succès ne fut pas moindre dans la société choisie où le lança son père, qui d'abord put fournir aux profusions du jeune homme. Cette célébrité précoce, la belle tenue d'Émile, resserrèrent peut-être les liens de l'amitié qui l'unissait à la comtesse. Peut-être Madame de Montcornet, qui avait du sang russe dans les veines, sa mère était fille de la princesse Cherbellof, eût-elle renié son amie d'enfance pauvre et luttant avec tout son esprit contre les obstacles de la vie parisienne et littéraire. Mais quand vinrent les tiraillements de la vie aventureuse d'Émile, leur attachement était inaltérable de part et d'autre. en ce moment Blondet, que le jeune d'Esgrignon avait trouvé à Paris devant lui à son premier souper, passait pour un des flambeaux du journalisme. On lui accordait une grande supériorité dans le monde politique et il dominait sa réputation. Le bonhomme Blondet ignorait complètement la puissance que le gouvernement constitutionnel avait donnée aux journaux. Personne ne s'avisait de l'entretenir d'un fils dont il ne voulait pas entendre parler. Il ne savait donc rien de cet enfant maudit, ni de son pouvoir.